Les rencontres d'Edmond Morel. Dominique Fernandez, vous publiez un dictionnaire amoureux de Stendhal dans cette collection de Jean-Claude Simoen, parue chez Plon et Grasset dans ce cas-ci. Alors, on sait que vous avez déjà publié dans cette même collection un dictionnaire de l'Italie et de la Russie. Est-ce qu'il y a des points communs entre un dictionnaire amoureux autour d'un écrivain comme Stendhal et ces deux pays, l'Italie et la Russie ?
Non, sinon l'idée que l'amour, on parle de ce qu'on aime, d'un pays ou d'un écrivain, c'est ça qui est commun. Ça, c'est moi qui ai eu l'idée du concept, comme on dit, dictionnaire amoureux. D'ailleurs, Simone l'a reconnu dans la préface au dictionnaire d'Italie, parce que j'avais écrit un livre qui s'appelait Voyage d'Italie, dictionnaire amoureux, et il l'a repris pour sa collection. Ça permet de parler. Moi, j'aime bien mon dictionnaire, ça veut dire foisonnement, mais. Mais pas scolaire, pas Larousse, pas le. On parle de ce qu'on aime, quoi, amoureux.
Ça permet aussi de naviguer un peu à travers soit un pays, soit un auteur, et d'aller, y compris d'avoir des difficultés avec certaines lettres. Dans votre cas, c'était la lettre K qui vous posait problème.
Toujours K, X, Z, c'est toujours très difficile. Mais c'est amusant, bon, ça c'est. Mais non, ça permet de parler de ce qu'on aime chez quelqu'un ou dans un pays.
Alors, revenons à Stendhal que vous aimez donc. Dans la première des entrées, l'entrée absolue, vous mentionnez quatre éléments qui constituent d'une certaine manière les principales passions, les principaux intérêts de Stendhal: la France, l'Italie, la vanité et la passion. Oui. Alors, est-ce qu'on pourrait développer chacune de ces notions?
Surtout qu'elles vont deux par deux. Pour lui, la France est le pays de la vanité, où on aime paraître, on n'est pas sincère. Et pour lui, l'Italie, c'est le pays de la passion. D'abord, c'est un mythe un peu, parce que. Enfin, lui, il n'aimait pas la France, il était très malheureux à Grenoble. Il a découvert l'Italie à 17 ans, il était fou d'Italie, donc il a assimilé l'Italie à un pays où chacun vit intensément, avec énergie, avec violemment même, jusqu'au crime. Tandis qu'en France, c'est tout mondain, tout vaniteux, quoi.
Et alors, le vanité et passion, là, c'est le même lien entre les différents, entre les deux pays. Mais est-ce que c'est aussi une caractéristique de l'homme Stendhal?
Non, parce que lui. Enfin, dans quel sens?
Dans le sens où Stendhal est un homme qui est passionné. Vous dites que Il a une manière de voir le monde qui est un engagement.
Enfin, l'homme, moi, je vois plutôt en vanité, personnellement, parce que ça a été très mondain, il aimait les comtesses. Mais il pensait que la passion, c'était mieux. Mais je ne sais pas si lui-même était tellement passionné que ça. C'est ça, c'est.
Bien. Alors, on va passer en revue d'autres entrées. L'une, c'est son journal. Alors, Folio vient de publier le gros volume de son journal. Vous dites de ce travail d'écriture que c'est une sorte de chantier.
Oui, parce que vous savez, Stendhal, ce n'est pas un écrivain de profession. Il écrivait parce qu'il avait envie d'écrire, mais il n'a pas fait une carrière d'écrivain, comme on dit. Beaucoup de ses œuvres sont posthumes, ce n'est pas fini. Et donc, dans son journal, il écrivait ce qui lui passait par la tête. Et après, c'était un matériau qui lui servait pour écrire ses livres plus construits.
Et d'ailleurs, il y a cet exemple de la Chartreuse de Parme que vous citez dans l'entrée Fabrice, où finalement, il dicte presque, il improvise presque le roman.
Ah oui, ça, c'est un cas unique. Il a écrit en 52 jours, sans s'arrêter. Il fallait dicter à l'époque, mais c'est la fin de sa vie, c'est toute son expérience.
Et vous, en tant qu'écrivain, est-ce que c'est une approche que vous pouvez concevoir? Dans quel état d'esprit il faut être pour parvenir à produire un roman de cette envergure-là?
L'idéal pour l'écrivain, ce serait de ne pas s'arrêter, l'idéal, qui est physiquement impossible. Sauf dans ce cas-là, parce que il devait bien dormir, mais. Vous savez, quand vous écrivez un livre, toute interruption vous coupe. Il faut faire un effort pour se remettre au niveau. Il y a des décalages d'humeur, de climat, de ce que vous voulez, de santé. Si on pouvait écrire un livre non-stop pendant là, ce serait beaucoup mieux. Mais c'est pratiquement impossible.
Vous indiquez d'ailleurs, si je me souviens bien, que dans l'entrée journal, que écrire un journal correspond souvent chez un écrivain à une période stérile au niveau de la création.
Quand Stendhal écrivait ses romans, le journal s'interrompt. Le journal, c'est pas formé, c'est pas donc on peut écrire tout le monde peut écrire son journal, je veux dire, tandis que.
Vous indiquez aussi dans une autre entrée qui est le brûlardisme, si je ne me trompe pas, que d'une certaine manière, et ça rejoint un peu ce qu'on ne trouve peut-être pas dans le journal, d'une certaine manière, à travers ce Henri Brûlard, il l'a peut-être dévoilé bien plus que dans n'importe quel journal intime ou écrit personnalisé ce qu'il était.
Oui, Brûlard, c'est sur une espèce d'autobiographie. Mais pas complète. C'est des petits souvenirs, des petites réflexions. C'est toujours par fragments, mais il y a tout Stendhal est là. C'est merveilleux. HB, hein, il s'appelait Henri Bell, Henri Brûlard, et il a commencé ça à Rome à 50 ans sur le Janicule en disant qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, enfin une espèce de bilan, parce que à 50 ans à l'époque c'était presque la fin d'une vie, et c'est très fort pour ça. C'est très
Vous dites aussi que c'est là où on voit peut-être le mieux ce qu'a été son enfance, qui est une enfance dont on découvre dans l'entrée consacrée à Dieu, qu'elle n'a pas été une enfance très, 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 très agréable.
Non. Non, parce que d'abord, il a perdu sa mère à 6 ans. Il détestait son père. Il n'aimait que son grand-père. Il avait un précepteur, l'abbé Ryan, qui haïssait absolument. Et il était très, très malheureux à Grenoble. Il est tout fait, c'est pour ça qu'il est parti pour l'Italie.
Et c'est aussi pendant l'enfance qu'il a en quelque sorte réglé ses comptes avec Dieu en ayant cette formule notamment la seule excuse de Dieu, c'est qu'il n'existe pas.
Voilà. Ça, j'aime beaucoup.
Ce qu'on aurait voulu inventer.
De même qu'il dit Rome serait merveilleux sans le pape. Voilà. Je trouve ça c'est toujours vrai.
C'est Anatole France qui disait, je crois, le seul obstacle entre Dieu et l'homme, c'est l'Église.
Oui, oui, bah, c'est vrai.
Alors, vous dites aussi que Stendhal est l'anti-Flaubert.
Oui, tout à fait. Flaubert est un écrivain laborieux, voulu, tous les effets sont étudiés, il prend la posture de l'écrivain, il dit « voilà comme j'écris », etc. Stendhal, c'est comme un ami. Jamais il prend la posture d'écrivain, jamais il ne vous dit « je suis écrivain ». Il ne se considère pas comme un écrivain. C'est un homme qui écrit, mais ce n'est pas un écrivain, c'est la même chose. Il ne fait pas une carrière d'écrivain. Flaubert, tous les autres écrivains ont fait des carrières d'écrivains, pas Stendhal.
Il y a une caractéristique d'ailleurs chez Stendhal, c'est qu'une grande partie de son œuvre a été redécouverte 40 ans après. Il était connu 40 ans après. Cela vient de quoi, selon vous?
Mais parce qu'il est mort inconnu. Vous savez, quand il est mort, en 42, il y a un entrefilé dans le journal, on dit « l'ancien consul de Civitavecchia est mort ». Basta, on n'a même pas signaler qu'il avait écrit quand même quelques livres.
Oui, et ceci dit, c'est Henri Martineau qui, au XXe siècle, cette fois-ci, s'est entrepris la publication de l'ensemble de Qui est ce Henri Martineau?
Moi, je l'ai connu encore, c'était un homme merveilleux qui était un libraire, qui était place Saint-Germain-des-Prés, et qui avait donc la passion de Stendhal. Donc, il a recueilli toute sa vie, il a fait une édition en 75 volumes, complète, tous les fragments, tous les petits bouts, tout ça. Et il écrit des livres aussi, une biographie, une étude, un calendrier. Enfin, il s'est dévoué entièrement à Stendhal. Très jolies éditions, comme on n'en fait plus, malheureusement. Et il était tout jaune, paraît-il. Enfin, et il siégeait là, on l'appelait Troisième Magot. Vous savez, parce qu'il y avait deux Magots, là, en face, Troisième Magot. Et il est mort après-guerre, encore. Il est mort dans les années 60, je crois, je sais plus.
Et sa revue s'appelait Le Divan.
Le Divan, qui a publié donc tout, mais aussi des gens comme Toulet, comme Nerval, Mérimée. Il a fait très jolies éditions.
Lorsque vous évoquez les romans Le Rouge et le Noir, La Chartreuse de Parme et Le Journal, pour Le Journal, on sait, vous avez dit que c'était un chantier. Pour Le Rouge et le Noir, vous dites que c'est un dessin épuré. Oui. Quant à la Chartreuse de Parme, pour vous, c'est un opéra. Oui. Est-ce que vous pourriez développer ces trois?
Parce que Le Rouge et le Noir, c'est vraiment très laconique, très comme un dessin, enfin, comme pur, enfin, sans. Tandis que La Chartreuse, c'est plus symphonique, c'est comme une musique, c'est plus C'est moins âpre, surtout. C'est très âpre, le Rouge et Noir. C'est la conquête de Paris par Julien, tandis que Fabrice est né avec tout le... C'est un noble, riche, donc il n'y a pas cette tension. Donc c'est comme une symphonie. On est bercé par des harmonies musicales.
Vous indiquez dans une des entrées une série de textes brefs que vous identifiez comme étant les chefs-d'œuvre oui. des écrivains qui ont produit des œuvres énormes comme Victor Hugo. Dans le cas de Stendhal, c'est un petit texte dans ses chroniques italiennes. Oui. Quel est ce texte et pourquoi vous l'avez choisi ?
Parce que justement, on revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que il y a un Français qui est à Rome, qui est amant d'une princesse. Qui elle est passionnée, qui est justement la passion italienne, donc très jalouse, et cet amour pèse aux Français, qui est un être léger, selon, comme tous les Français, selon Stendhal. Et donc il a une autre maîtresse italienne qui est aussi coquette, légère, et que ça lui plaît mieux. Et la première princesse jalouse, se venge en faisant tuer par ses hommes de main le Français. Donc c'est. C'est l'opposition des deux sortes d'amour, l'amour vanité à la française et l'amour passion italienne qui va jusqu'au crime.
Alors on ne le sait pas, Stendhal était aussi un écrivain, un auteur d'articles en anglais. Il avait toute une production d'articles que dont vous soulignez l'importance.
Ah, mais c'est passionnant parce que Stendhal n'avait pas le sou. Hein. Il a toujours tiré le diable par la queue. Donc il a été correspondant pendant 5 ans de... plusieurs revues anglaises. Il signait sous un pseudonyme et était beaucoup plus libre de dire des choses contre la France, des choses qui ne lui plaisaient pas, que s'il avait écrit en français. Mais c'était traduit, c'était publié en anglais. On a perdu souvent le manuscrit, d'ailleurs. Il a fallu retraduire de l'anglais. Et en plus, c'est un laboratoire, parce que c'était le jeune Stendhal, avant d'écrire des romans, il étudiait la société française. Est-ce que c'est un salon français, est-ce que c'est les jésuites, est-ce que c'est tout ça. Et ça a servi après quand il a fait des romans. Mais c'est pas. Ça a été réédité par Stock sous le nom de Paris-Londres. Et c'est absolument passionnant.
Alors, pour terminer cet entretien, Dominique Fernandez, j'aimerais qu'on évoque un des points presque communs entre vous et Stendhal, c'est l'Académie française. Alors, dans l'entrée Académie, on découvre que Stendhal, lui, n'est pas entré à l'Académie française.
Il n'a pas eu le temps, parce qu'il est mort à même pas 60 ans. Et il semble qu'il ait commencé à faire des manœuvres. Enfin, c'est pas sûr, hein, mais enfin, c'est presque sûr qu'il serait porté candidat. Mais j'ai peur qu'il... Je pense pas qu'il aurait été élu, malheureusement, parce que vous savez, mes confrères, ils sont très... C'est trop neuf pour eux. Vous pensez que Balzac a eu 2 voix. C'est la honte. Hugo et Vigny, 2 sur 40. C'est quand même une tâche, ça, sur l'Académie. Et Stendhal, j'ai peur que... On l'aurait trouvé pas assez écrivain, trop pas convenable, quoi.
Pourtant, il annonçait déjà, lui, en 1830, je pense, oui. que dans un siècle plus tard, on le découvrirait.
Oui, bien sûr. Aujourd'hui, on le lirait, mais plus tard, mais... Ça...
Alors, vous regrettez aussi, dans cet article sur l'Académie, les discours qu'on aurait eus de Prosper Mérimée, qu'il l'aurait accueilli, et donc là, ça aurait été des grands morceaux de bravoure.
Oui, ça a été bien, parce que... Oui, c'est très dommage. Donc, il n'y a pas de romancier à l'Académie du 19e. Aucun. Ni Zola a été recalé 17 fois. Il a eu entre 0 et 3 voix, vous vous rendez compte. Mais ça, c'est pour raison politique, surtout. Maupassant, Dumas, Flaubert. Mais Flaubert ne s'est pas présenté. Balzac a été recalé. Il n'y a eu aucun des grands romanciers.
Et à cette époque-là, quelle était leur motivation de porter leur candidature à l'Académie ?
Vous savez, d'abord, quand on est jeune, on se moque de l'Académie. Ça, c'est, moi aussi, d'ailleurs, je me suis moqué. On trouve que c'est des vieux, que c'est ringard, tout ça. Et puis après, on se dit, pourquoi pas, on a des amis qui vous disent, viens, etc. Alors, on y va, parce que, surtout, il y a un passé prestigieux, quand même, quand on pense au XVIe siècle. Quand il y avait Racine, Corneille, Bossuet, La Fontaine, on se dit, c'est pas mal. Et puis, voilà, c'est...
Et selon vous, quelle était la raison pour laquelle, hormis Zola, pour les raisons oui. politiques, quelle était la raison pour laquelle aussi peu de romanciers avaient accès
parce
à l'Académie ?
Parce qu'au XIXe siècle, le roman n'était pas un genre encore considéré comme noble. C'était le théâtre et la poésie. Le roman, c'est très tard qu'il est venu dans les genres littéraires. Maintenant, il est tout envahi, mais c'est à partir de la seconde partie du XIXe, on peut dire. Après Flaubert, après... Daudet, tout ça, mais au temps de Stendhal, qui est mort en 1942, c'était encore un genre, qui n'était pas considéré comme vraiment digne, quoi.
C'était un peu comme les feuilletons, ou comme...
Voilà. Pourtant, ça paraissait un feuilleton, mais c'est comme si aujourd'hui, je sais pas, la BD ou la... C'était pas... Un jour, la BD sera à l'Académie, je suis sûr. Mais pour moi, on dira, ah ben non, c'est pas sérieux, c'est pas...
Alors, est-ce que, si vous deviez conseiller à quelqu'un qui n'a pas encore lu aucun livre de Stendhal, s'il voulait entrer, parce que les dictionnaires amoureux ont cette caractéristique de donner envie de lire, alors oui. On entrerait par quelle porte dans l'œuvre de Stendhal?
Oh ben, le rouge et le noir, quand même. Enfin, les jeunes, en tout cas, c'est... Quand on est jeune, on préfère le rouge, et après, on préfère la chartreuse, parce que c'est plus... Il y a la vieillesse, c'est plus méditatif, mais quand même, ces deux romans, c'est... Mais si on est jeune, je dirais le rouge. Et les chroniques italiennes aussi, qui sont des chroniques inspirées de naissance, de crimes, de choses horribles, comme ça, il aimait beaucoup ça. L'enlèvement de nonnes qu'on enlève du couvent, enfin, c'est très amusant en plus, et très 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 bien écrit. Enfin, le rouge, c'est quand même un livre que je crois que tout le monde peut lire facilement.
Et les chroniques italiennes, c'est parmi celles-là que vous identifiez texte court
exactement.
Très bien. Dominique Fernandez, je vous remercie pour cet entretien.
Merci.
Et je rappelle le titre de ce dernier ouvrage en date qui m'a valu le plaisir de vous rencontrer, Le dictionnaire amoureux de Stendhal, paru chez Plon et Grasset, dont vous avez rappelé que vous étiez à l'initiative de ce nom de dictionnaire amoureux et de cette idée de publication, dans laquelle vous avez aussi publié en deux volumes Dictionnaire amoureux de l'Italie et en un volume Le dictionnaire amoureux de la Russie. Merci Dominique Fernandez.
Merci à vous.
Les rencontres d'Edmond Morel.